Bonjour chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition du Libre Journal de Pascal Lassalle. Alors tout d'abord, je tiens à préciser, cette émission est pré-enregistrée, donc les auditeurs et les auditrices voudront se manifester à bon escient, comme toujours, je n'en doute point, pourront le faire par les moyens permis, soit par la technique, soit par le moyen d'une bonne vieille lettre manuscrite à l'ancienne. Alors aujourd'hui, pour cette émission pré-enregistrée, j'ai le plaisir de recevoir sur Radio Courtoisie un vieux complice, quelqu'un qui a été un habitué de ce studio qui redécouvre avec sa nouvelle parure en quelque sorte, sa parure qui tire sur le bleu, plus que ça. J'ai nommé Jean-Claude Rollina. Jean-Claude, bonjour.
Bonjour.
Alors, rappelons pour nos auditeurs, qui ne seraient pas de fidèles auditeurs justement, que vous êtes un élu local, vous êtes un ancien élu local, vous étiez cadre administratif dans le privé, documentaliste et journaliste, mais surtout un indécrottable globe-trotteur qui nous a gratifié par ce biais de très nombreux ouvrages sur des sujets plus ou moins de traverse, mais toujours d'un grand intérêt. Je ne me souviens plus pourquoi je vous avais reçu la dernière fois, c'était Chypre,
peut-être,
je ne me souviens plus, voyons s'y perd.
C'est drôle d'état microscopique, peut-être.
Peut-être, non, même pas, je crois que c'était Chypre, ou la Grèce, ou non, même pas la Grèce colonelle. Bon, enfin, en tout cas, voilà, vous avez une bibliographie assez riche, vers laquelle je peux renvoyer nos auditeurs. Et votre actualité nous gratifie d'une version réactualisée, refondue, d'un ouvrage que je vous ai déjà publié auparavant, qui s'intitule « L'avion ». Ce mystérieux tueur de célébrités. Chez un nouvel éditeur d'ailleurs pour vous, édition Maya, voilà, que vous avez publié d'ailleurs sur un mode original avec une promotion crowd, je crois, simplycrowd.com, je crois, on m'a dit, voilà. Donc cet ouvrage qui vient de sortir, donc profondément refondu, donc Jean-Claude, l'avion tueur de célébrités. Mais vous précisez dans votre introduction que au-delà de l'avion, effectivement, voilà, qui peut tuer des célébrités de manière générale et en général, oui, plutôt des chefs d'État, des hommes d'État, il y a la question de l'assassinat politique, sur laquelle vous revenez dans votre introduction.
Tout à fait, si vous voulez, on connaît les meurtres politiques, les assassinats politiques, il y a eu le glaive pour César, nous avons eu le poignard pour Henri IV, nous avons eu les balles pour John Fitzgerald Kennedy, le poison pour le roi Boris de Bolivie, et puis la fusillade pour Ceausescu, et puis la mort par noyade de Monsieur Boulin. Et donc les assassinats politiques, cette fois-ci dans mon étude, il y a une procuration. En fait, c'est l'avion, ce fauné de l'assassinat politique. L'avion est un instrument qui agit par procuration. Donc j'ai recensé une quarantaine de victimes, et alors il y a effectivement des victimes collatérales, parce que les passagers qui accompagnent la vedette, entre guillemets, ou l'équipage, ne sont pas concernés par la volonté d'être assassinés, d'être tués. Donc, si vous voulez, c'est quand même assez scandaleux d'utiliser cette arme de lâche pour abattre un adversaire politique. Mais c'est comme ça, c'est l'actualité, et donc j'ai trouvé un certain nombre de personnages qui ont perdu la vie, personnages très connus, qui ont perdu la vie dans un attentat aérien.
Voilà, effectivement, les auditeurs verront qu'il y a quand même une liste assez étendue, vous êtes presque visé à l'exhaustivité, peut-être à quelques cas près, en tout cas, bon, je n'ai pas repéré, en tout cas, de certains qui auraient pu me venir à l'esprit et qui changent. Alors, ce sera aussi l'occasion pour les auditeurs de faire un petit voyage à la fois dans le temps et, bon, sur notre planète, en revenant, bon, principalement, bien sûr, au XXe siècle, mais et en ce début de XXIe, il y en a quelques-uns que nous allons aborder. Donc, ce sera l'occasion de revenir un petit peu sur des conflits, sur des théâtres d'opérations qui étaient un peu oubliés et qu'il convient de rappeler, notamment à nos plus jeunes auditeurs. Ce ne sera pas inutile. Alors moi j'ai fait un petit classement, j'ai fait une petite sélection pour donner l'eau à la bouche en quelque sorte aux éditeurs qui j'espère auront la bonne idée de se procurer votre ouvrage. Donc on va commencer par le continent africain qui ne fut pas avare de conflits, notamment dans l'ère post-coloniale que nous avons connue à partir des années 60, et nous allons revenir vers votre bonne vieille Europe à partir d'ailleurs du second conflit mondial avec quelques sommités qui diront quelque chose à nos auditeurs. Alors je vous propose de revenir, on va commencer par un cas particulier, un secrétaire général de l'ONU d'origine suédoise, qui a perdu la vie au Congo. D'ailleurs, au Congo, dans lequel étaient impliqués des contingents suédois de l'ONU. Donc, il s'agit de Dag Hammarskjöld. Hammarskjöld. Oui. Je vais essayer de bien prononcer, que les sinophones à l'antenne me pardonnent d'avance, quoi. Donc, Dag Hammarskjöld. Donc, voilà. Quel est un petit peu le contexte, mon cher Jean-Claude, réintroduisez un petit peu tout ça.
Dag Hammarskjöld, c'est quand même pas rien. C'est le secrétaire général des Nations Unies.
Et voilà.
Éminent personnage. Or, l'ONU, les Nations Unies, étaient très impliquées dans le conflit du Congo. Alors, le Congo ex-belge est devenu indépendant le 30 juin 1960, et on sait que, alors là, en guise de conflit, on a été servi. Nous avons eu l'assassinat de Patrice Lumumba, après la prise de pouvoir par le général Mobutu, et puis surtout le Katanga et le Sud Kasaï qui ont fait sécession. Et alors, ce fameux Katanga a fait sécession car qu'il était particulièrement riche en minerais stratégiques à l'époque, et son patron, c'était monsieur Moïse Tshombe, qui a bénéficié de l'aide plus ou moins occulte de la Belgique et de la France, qui n'entendait pas laisser l'ensemble du Congo entre les mains des Anglo-Saxons. Donc, nous avons en arrière-plan un conflit, je ne dirais pas idéologique. Parce que franchement, ce qui opposait Tshombe à Mobutu, à Kasavubu, à Lumumba, il n'y avait rien d'idéologique.
Voilà. On peut rappeler aussi pour nos auditeurs que c'est dans ce contexte qu'on a vu aussi la geste de ce que certains journalistes ont qualifié du mauvais qualificatif d'affreux, les mercenaires qui sont aussi impliqués dans ce conflit.
Alors oui, non, mais alors les mercenaires, on les a accusés effectivement d'avoir été responsables du fait que le Douglas DC-6, qui s'appelait l'Albertina du secrétaire général, était abattu. Voilà. Oui, il y avait des mercenaires dans la gendarmerie katangaise, des Européens, principalement des Français et des Belges, mais il y a eu aussi des Anglo-Saxons de Rhodésie, et qui encadraient cette gendarmerie katangaise, qui a très bien résisté d'ailleurs au contingent de l'ONU, notamment les Suédois et les Irlandais. Mais bon, le Katanga a quand même fini à succomber sous le nombre. Et pour, négocier la reddition de Tshombe, le secrétaire général s'était proposé de le rencontrer sur un territoire neutre, à savoir la Rhodésie du Nord, qui était à l'époque sous le contrôle des Britanniques.
Voilà, la future Zambie.
Alors, c'est la future Zambie, et c'était aussi l'un des trois membres de la Fédération d'Afrique centrale, ou encore la Fédération des Rhodésies, qui associait la Rhodésie du Sud de M. Ian Smith, et puis le Malawi.
Voilà, donc, auquel vous avez consacré une biographie.
Ah oui, j'ai fait la biographie d'Ian Smith. Ouais. Bien, merci de le signaler au passage. Donc, monsieur Tshombe et monsieur Dag Hammarskjöld conviennent, n'est-ce pas, d'un rendez-vous avec leurs appareils, leurs entourages respectifs, et ce bon monsieur Hammarskjöld décolle le 18 septembre 1961, il quitte donc le Congo et il va en direction de, effectivement, ce qui est la Zambie aujourd'hui. Et subitement, évidemment, on perd trace de son appareil, que l'on découvrira près de la ville de Ndola, en Rhodésie du Nord, complètement écrasé au pied d'une tourmitière géante. Alors là, il y a évidemment, dans un premier temps, une surprise, l'émotion, et puis dans un second temps, on va quand même chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Or, il y a quand même des faits troublants. Plusieurs hypothèses ont été évoquées. On a dit que c'était un fougueux magistère de l'aviation katangaise, la fameuse AVICAT, qui ne comptait que trois chasseurs, pilotés par d'ailleurs des Belges, et impossible, c'est pas possible, le rayon d'action du Fouga qui décollait du Katanga ne pouvait pas faire l'aller-retour entre Elisabethville, la capitale du Katanga, et Ndola en Rhodésie du Nord. Donc, hypothèse écartée. Par contre, une autre hypothèse beaucoup plus sérieuse, c'est que on avait recensé 16 passagers et on a retrouvé un 17e corps. Alors là, ça devient très très troublant, d'autant plus que l'un des corps des passagers, à savoir l'un des gardes du corps du secrétaire général de l'ONU, avait le corps criblé de balles. Donc, effectivement, suspicion de bagarre à bord et une bagarre qui se terminerait mal. D'autant plus, curieusement, que ce DC-6 avait dans les soutes des explosifs. Donc, vous avez là tout un faisceau de preuves qui tente à prouver que on voulait éliminer le secrétaire général de l'ONU. Alors on dit évidemment, à qui profite le crime? À qui profite le crime? Est-ce que ce sont des intérêts financiers occultes qui ne voulaient pas voir le Katanga leur échapper? Est-ce que ce sont d'autres forces politiques qui ont voulu éliminer le secrétaire général parce que peut-être allait-il faire des concessions trop fortes à M. Tshombe? Il faut savoir que, je l'ai dit tout à l'heure, derrière le gouvernement légal du Congo, je ne dis pas légitime, bien entendu, eh bien, derrière ce gouvernement, vous aviez les Anglo-Saxons et les Soviétiques. Par contre, en face, vous aviez les Belges et les Français. Voilà. Alors, au lecteur de se faire son jugement.
Voilà, oui, vous évoquez aussi l'hypothèse d'une confusion qu'aurait pu avoir. Vous rappelez que ce DC-6 était aussi un avion qui était emprunté régulièrement par le général irlandais McCown, qui commandait les contingents onusiens.
Voilà. Oui, non, mais
il aurait pu avoir une confusion
de
la planification.
Que, voilà. Oui, vous avez tout à fait raison de rappeler cet événement, mais je ne vois pas en quoi l'élimination du commandant du contingent onusien au Congo aurait pu changer quoi que ce soit.
Exactement, tout à fait. Hein? Il était remplaçable.
Tant qu'à faire, vaut mieux taper la tête.
Bien sûr. Donc là, on est dans ce contexte. Alors, d'ailleurs, ça me rappelle une chose, c'est que j'ai vu il y a quelque temps un film consacré justement à cette figure, Dag Hammarskjöld. Et dans le film, on montre, enfin, il privilégie l'hypothèse de l'avion qui est de chasse qui abat le DC-6.
Oui.
Voilà, on voit ça.
Bon, écoutez.
Non, mais je vous dis.
C'est une hypothèse, je l'ai évoquée, mais.
Mais bon,
c'est pas impossible. Mais enfin, il y a quand même quelque chose.
C'est le parti pris du scénariste, voilà.
Oui,
aussi,
mais il y a quelque chose de troublant. On retrouve un corps supplémentaire, un passager qui n'avait pas été enregistré et qui est l'un des gardes du corps qui était farci de plomb. C'est quand même pour le moins troublant.
Ah ben c'est clair, tout à fait. Alors nous allons remonter vers le Maghreb, vers l'Afrique du Nord, vers le royaume chérifien du Maroc, de ce cher ami de la France que fut Hassan II. Alors, lui Hassan II aussi, il a eu chaud.
Hein. Alors,
il a pris l'avion peut-être qu'une fois de trop et ça a chauffé pour son grade. Quoi,
alors manière. Là, Hassan II avait la baraka, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors figurez-vous que le 16 août 1972, quelques mois après la tentative de coup d'État à Skhirat, il faut rappeler qu'il y avait, comment dirais-je, une sorte de pince-fesse, n'est-ce pas, à Skhirat. Et le roi, son état-major, les jeunes élèves d'une école militaire, tout ce beau monde était rassemblé et c'est à ce moment-là qu'une partie des élèves officiers se sont mutinés, mais tout était préparé d'avance, se sont mutinés. Le roi a réussi par miracle à s'échapper, un certain nombre d'officiers généraux ont été abattus et celui qui a réprimé ce soulèvement, c'est le général Oufkir. Homme de main, homme de confiance de Sa Majesté Hassan II, l'homme qui a probablement trempé dans l'affaire Baraka, c'était vraiment quelqu'un sur lequel le roi comptait. Or, il se fait que le 16 août 1972, le roi rentre d'un voyage sur son pays, au Maroc. Il est à bord d'un Boeing 727 commercial, tout à fait classique, de la Royal Air Maroc. Et à un moment donné, au-dessus de Tétouan, il s'aperçoit qu'il est encadré par des chasseurs F-5 de son aviation. Et il pense que c'est une escorte pour sa personne. Pas du tout, qu'un ennemi, mon ami. Eh bien, les chasseurs F-5 ouvrent le feu sur le Boeing 727, dont deux réacteurs sont touchés, donc il vole encore sur son troisième réacteur de queue. Et à ce moment-là, le roi a une idée de génie qu'il va le sauver. Il prend le micro, il réussit à entrer en contact avec les pilotes et il annonce « Le roi est mort, cessez de tirer, il y a une centaine de passagers à bord qui sont innocents, je vous en prie, allez-vous-en, cessez de tirer, le roi est mort ». Et, incroyable mais vrai, les pilotes croient sur parole ce mystérieux interlocuteur. Évidemment, ils n'ont pas reconnu du tout le roi. Et ils se posent à leur base respective. L'avion arrive à l'aéroport de Rabat. Et aussitôt, évidemment, le roi reprend les choses en main. Et on va s'apercevoir que derrière cette mauvaise affaire se trouve le général Oufkir. Or, vous vous imaginez la stupeur du souverain, vous imaginez d'ailleurs la stupeur de n'importe quelle personne qui se sent subitement trahi par quelqu'un en qui il a une confiance absolue. Alors sa vengeance sera tout à fait à la hauteur, évidemment, de cette trahison. Alors, il y a plusieurs versions sur... Je voulais revenir sur le fait que c'est un vrai miracle que l'avion se soit posé sur un seul réacteur, et on le doit à la maestria du pilote et de son copilote, qui ont réussi quand même à poser un tri-réacteur avec un seul moteur, et sans qu'il y ait de dégâts supplémentaires à l'atterrissage. Donc, revenons-en à la vengeance du roi. Plusieurs versions circulaient. Oufkir aurait été arrêté et abattu par le colonel Dlimi, qui était son adjoint. Vous voyez, comme quoi ça reste, c'est une sorte d'entre-soi assez sinistre. Alors ça, c'est la version officielle. On a dit qu'il avait été abattu. Et puis, il y a une autre version qui dit qu'il se serait suicidé. La veuve, elle, c'est la veuve du général Oufkir, qui, entre parenthèses, la veuve d'Oufkir et ses enfants ont souffert aussi de la vengeance du roi, puisque ces gens-là ont vécu dans des conditions misérables après la mort de leur mari et père. Donc, l'autre version, c'est que il aurait été aussi tué par d'autres officiers que le colonel Dlimi. Il y a encore une autre version assez folle qui dit qu'il aurait terminé sa vie dans un bagne du sud marocain. Alors là, on n'en saura rien, parce que tous les interlocuteurs qui auraient pu parler, en tout cas de premier rang, sont morts. Voilà. Donc, Baraka pour le roi du Maroc. Hein. On a failli assister à une belle catastrophe, belle entre guillemets, catastrophe aérienne.
Ah, complètement. Alors, on va franchir encore une décennie pour nous projeter en Afrique australe, dans une ancienne colonie portugaise, le Mozambique. Et rappelons que le Portugal a combattu pendant très longtemps sur ces théâtres d'opération, bon, en Guinée-Bissau, mais également en Angola et au Mozambique. Et ils ont dû lâcher ces colonies après la révolution des œillets, donc du printemps 1974. Et parmi les protagonistes de ces guerres coloniales, il y avait celui qui fut à la tête d'une guérilla marxiste-léniniste, Samora Machel, qui va finir par devenir président donc de la République populaire de Mozambique. Son drapeau d'ailleurs montre bien un petit peu l'imprégnation marxiste-léniniste. Et Samora Machel, lui aussi, va avoir peut-être quelques mésaventures aériennes.
Oui, il va perdre la vie avec tous les passagers de son Tupolev Tu-134. Alors, vous l'avez cité, le Portugal a été une très grande puissance coloniale proportionnellement à sa taille. Hein. Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Timor, Macao, etc. Bon, bref, le Brésil, bien sûr. Donc, c'est pas rien. Il se fait évidemment qu'après la révolution des œillets de 1974... le nouveau gouvernement de Lisbonne, assez progressiste, disons-le carrément socialiste, avec les jeunes capitaines à sa tête, enfin ça n'a pas duré, hein, ont négocié les indépendances respectives de toutes ces colonies. Et alors le Mozambique, bien entendu, ce grand pays qui est sur la côte orientale de l'Afrique, en face de Madagascar, ce grand pays est devenu indépendant, et comme vous l'avez dit, Samora Machel, leader du Frelimo, le Front de Libération du Mozambique, est devenu président.
Voilà, on peut rappeler que dans ces deux anciennes colonies donc, d'Afrique australe, l'Angola et le Mozambique, ce sont les guérillas marxistes-léninistes, soutenues en général par l'Union soviétique et Cuba, et qui ont fini par l'emporter sur d'autres guérillas, bon, on va dire, plus nationalistes, ou en tout cas, bon,
oui, qui n'étaient pas. Vrai.
Voilà, on a l'UNITA de Jonas Savimbi
en Angola.
Et là,
oui. On avait le RENAMO.
Le RENAMO, voilà, qui était soutenu d'ailleurs par l'Afrique du Sud.
Oui, voilà. Qui était soutenu par la Rhodésie et par l'Afrique
et
du
par
Sud.
L'Afrique du Sud.
Donc, le contexte, si vous voulez, de l'Afrique australe. À l'époque, il y a la Rhodésie du Sud qui est indépendante, qui a fait sécession.
Voilà, qui a fait sa déclaration unilatérale d'indépendance en 1965.
Oui, et que lâchement, voilà. Mme Thatcher et les États-Unis ont laissé tomber, alors qu'ils négociaient un arrangement avec des Africains raisonnables.
Oui, avec l'évêque Abel Murosewa notamment.
Musoré.
Et c'est avec les accords de Lancaster House qu'on donne le pouvoir justement à un des chefs de ces guérillas marxistes-léninistes, donc, qui était la ZANU de Robert Mugabe, qui était c'était la première ethnie dominante, le Shona, contre d'ailleurs son rival, Joshua Nkomo, de la Zipra, qui lui représentait l'ethnie Ndebele. Donc on sait ce qu'il est devenu au Zimbabwe, avec Mugabe, qui a transformé ce grenier à blé de l'Afrique australe en état misérable.
Entendu, aujourd'hui, ce pays producteur de céréales et de viande est importateur d'alimentation.
Et il rappelle les fermiers blancs, même en Zambie.
L'Afrique du Sud, elle, n'était pas encore tombée. L'Afrique du Sud tenait bon et elle cherchait des partenaires avec qui négocier. Alors, il y a eu le Malawi du docteur Hastings Banda. Le Malawi, c'est l'ancien Nyasaland, qui était tout à fait OK pour discuter avec le régime d'apartheid, mais enfin, c'était déjà l'apartheid, disons, ramolli. On allait vers la bonne voie. Et puis, il y avait aussi un autre voisin, la Namibie, qui était en conflit avec des guérillas aussi. Et il y avait le Mozambique, le Lesotho, j'en parle pas, le Swaziland, j'en parle pas, deux petits royaumes enclavés qui ne faisaient aucune difficulté à l'Afrique du Sud, qui aurait pu les étrangler en moins de 24 heures. Donc, le gros morceau oriental, c'était le Mozambique. Et le président Machel a rencontré le président Botha à Nkomati le 16 mars 1984 pour conclure un accord de bon voisinage, sans reconnaissance diplomatique, mais ça n'a aucune espèce d'importance qu'il y ait une ambassade du Mozambique ou pas à Pretoria, ou vice-versa sur Lourenço Marques, Maputo maintenant. Et alors, donc, ce Samora Machel, évidemment mécontente l'aile extrémiste du parti unique, et ça ne plaît pas à tout le monde, cette entente avec le méchant voisin, le mauvais voisin blanc, n'est-ce pas, qui met en esclavage les pauvres Africains noirs.
Pourtant, dans ces accords de Nkomati, il y avait des échanges de bons procédés. Les Sud-Africains
ne
retiennent plus le RENAMO, et en échange, ils demandaient que les militants de l'ANC au Mozambique soient expulsés.
L'Afrique du Sud et la Rhodésie soutenaient le RENAMO, qui était un mouvement de guérilla hostile au parti Frelimo, et donc le Frelimo, il y avait quand même une aile dure, et cette aile dure n'a pas accepté les accord de Nkomati, parce qu'elle considérait que c'était scandaleux de négocier avec un pouvoir « pâle », entre guillemets. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Afrique du Sud avait entamé quand même d'énormes réformes allant dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de faire accéder les Noirs aux responsabilités politiques. Et donc, ce Samora Machel part le fameux tragique pour lui, 19 octobre 1986, il monte à bord de son avion, et il se rend, il va en Zambie pour rencontrer le président de la Zambie, de l'Angola et du Congo, pour un sommet régional de la région des Grands Lacs. Et arrivé à un point de frontière entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, au-dessus d'un lieu-dit Les Bombos, et il se fait que le TU-134 va exploser en vol. Alors, plusieurs hypothèses ont été... Nous avons évoqué les circonstances, le contexte. Alors, les circonstances, évidemment, c'est ce vol en direction du sommet africain, et on accuse tout de suite l'ANC, l'African National Congress, qui est en exil, qui n'a pas encore été légalisé, accuse tout de suite l'Afrique du Sud d'avoir été à l'origine de l'attentat. Les autorités de Pretoria, évidemment, disent qu'elles n'y sont pour rien, et on ne voit pas quel intérêt elles auraient eu d'assassiner un chef d'État noir qui prenait langue avec eux. Donc, on peut raisonnablement écarter cette hypothèse. Ou alors, il y a le camp, disons, pro-soviétique, les ultra-gauchistes, si on peut dire, qui voyaient d'un très mauvais œil, comme je l'évoquais tout à l'heure, ce rapprochement avec l'Afrique du Sud et aussi avec l'Occident qu'avait entamé le président Machel. Alors, on en est là. On n'aura jamais su la réalité, malgré les enquêtes diverses. Alors, l'appareil n'était pas, évidemment, d'un modèle récent. Alors, on a dit que c'était une erreur de pilotage et aussi que c'était les conditions atmosphériques étaient très défavorables. En tout cas, il y a effectivement un faisceau de preuves qui tendent à dire que ce n'est pas l'Afrique du Sud et que si ce n'est pas une erreur de pilotage et les conditions atmosphériques, il y a quand même eu une explosion. Enfin, vous me direz, quand un avion, évidemment, heurte en basse altitude une montagne, il explose. Mais je ne vois pas une autre hypothèse que l'aile dure du Frélimo qui aurait organisé un attentat. Ou alors, effectivement, c'est peut-être la faute à pas de chance aux conditions atmosphériques détestables à ce moment-là.
D'accord. Mais écoutez, on va se projeter pas très loin, hein, on va revenir un peu dans la région des Grands Lacs, 8 ans plus tard, avec une affaire aussi qui a fait quand même beaucoup parler d'elle, parce qu'elle a débouché sur un véritable génocide. Donc c'est l'affaire du Rwanda, hein, avec donc la mort du président rwandais, Juvénal Habyarimana.
Alors là, c'est une affaire qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup couler d'encre.
Et concernant la France notamment.
Hein, et la France a été concernée, hein, voilà. Évidemment. Alors, le contexte, c'est la guerre civile au Rwanda. D'un côté, vous avez la minorité Tutsi, qui est représentée par le FPR, le Front Patriotique Révolutionnaire, qui est conduit par Monsieur Kagame, qui est toujours président du Rwanda.
Paul Kagame, oui.
Et en face, vous avez le camp des Hutus, une ethnie majoritaire que la France soutient, et dont le chef est le président Juvénal Habyarimana.
Voilà. On peut rappeler pour nos plus jeunes auditeurs que le Rwanda est une ancienne colonie allemande, qui avait déconfié son mandat à la Belgique, et que, comme le rappelle d'ailleurs très justement Bernard Lugan, hein, qui a d'ailleurs vécu là-bas plusieurs années, la situation était d'une manière relativement simple. Il n'y avait que deux ethnies principales, une ethnie donc une aristocratique et guerrière.
Minoritaire.
Minoritaire, les Tutsis, hein, nilotiques, hein, de guerriers pasteurs, et l'ethnie majoritaire des Hutus, qui étaient plutôt des paysans de la glèbe, comme dirait Bernard Lugan. Et traditionnellement, c'était la minorité Tutsi qui dominait, hein, la société Hutu, mais bien sûr avec l'octroi de l'indépendance par les Belges, et surtout le principe de un homme, un vote, ça m'a renversé totalement les équilibres.
Comme en Afrique du Sud.
Poser les bases, en fait, de compte, des conflits ethniques, oui. Hein, qui justement avaient été jugulés et maîtrisés, donc entre les Hutus et les Tutsis. Même chose chez le Burundi voisin, d'ailleurs,
tout
où les choses étaient inversées.
Mais alors là, vous avez tout à fait raison d'avoir cité Bernard Lugan, parce que sa formule au sujet des élections, c'est il parle d'ethno-mathématiques. Oui. C'est inéluctable. Quand vous avez une ethnie majoritaire dans un pays, elle est dominante et elle prend le pouvoir. Vous avez splendide exemple, le Mali. Le Mali, où les populations du Nord, qui sont ultra minoritaires, à savoir les Touaregs, etc., qui occupent un territoire immense, étaient, si vous voulez, les seigneurs avant la colonisation française. Et quand la colonisation française est arrivée et qu'elle a donné l'indépendance à toutes ces anciennes colonies, évidemment, les populations du Sud, elles, étant plus nombreuses, évidemment, ont pris le pouvoir. Et donc, d'où le conflit actuel au Mali et l'islamisme avancé comme raison principale du soulèvement des Touaregs, c'est là aussi un faux-né. La réalité du conflit, elle est ethnique.
Alors, comme la plupart des conflits africains, tout à fait.
J'ai fait une digression, mais il y a des comparaisons. Le Rwanda, alors vous avez le président, vous avez très bien dépeint le contexte, et vous avez le président Habyarimana Juvénal qui rentre d'une tournée accompagné du président Ntaryamina du Burundi. Alors vous avez deux chefs d'État à bord. Et cet avion, au moment où il se pose à Kigali, c'est un Falcon immatriculé 9XRNL, un Falcon français, piloté par des Français. Et au moment où il se pose, il est touché par un tir de missile. Ah, évidemment.
Des missiles sol-air portables.
Alors,
SAM-16.
On va revenir là-dessus. Voilà. Et donc, l'avion s'écrase et, évidemment, les deux présidents meurent, ainsi que l'équipage et les accompagnateurs des deux chefs de l'État. Alors, énorme affaire. On cherche tout de suite à qui profite le crime. Et c'est très difficile de s'avancer sur ce terrain-là. Parce que vous avez des intérêts contradictoires. Alors, on pense tout de suite aux Tutsis, au parti Tutsi, on pense à Kagame et au FPR, qui se seraient débarrassés d'un interlocuteur gênant.
Ouais, d'ailleurs, Bernard Lugan, que vous reprenez dans votre ouvrage, rappelle que les deux missiles incriminés faisaient partie d'un lot de 40 missiles qui avaient été livrés à l'armée ougandaise.
J'allais y venir.
Voilà. Et l'armée ougandaise, on sait qu'elle soutenait justement le FPR.
Quoi. Alors, par contre, il y a une autre hypothèse, puisque les Hutus étaient, le président Hutu, d'origine Hutu, d'ethnie Hutu, mais président du tout le Rwanda quand même, était en passe d'avoir négocié, si vous voulez, plus ou moins un accord avec le FPR. Donc, on a imaginé qu'une fraction dure du parti politique au pouvoir, celui de Monsieur Abiy Ahmed, je vais y arriver, aurait évidemment voulu sanctionner cette tendance pour arrêter tout de suite la possibilité d'une paix avec l'ennemi Tutsi. Donc vous avez une convergence.
Ce serait quelque sorte la faction génocidaire.
Comment ?
Ce serait la faction génocidaire, de cette manière.
Oui. Alors, maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure les missiles. Alors là, c'est très troublant. Il y a des missiles qui ont été livrés à l'Ouganda par l'URSS de type SAM-16. Et cet Ouganda, qui soutenait la rébellion du FPR, leur a rétrocédé des missiles. En face, l'armée rwandaise, soutenue par l'armée française, avait des missiles Mistral qui auraient pu abattre aussi l'appareil du président rwandais. Alors, il y a aussi quelque chose de troublant. Il y a une histoire de collines. Les missiles retrouvés sur la colline de Masaka, parce que la piste d'atterrissage était entre deux collines, la colline de Masaka, tenue par le FPR, mais on s'est aperçu que alors le Front patriotique rwandais tenait cette colline, mais on s'est aperçu que les tirs, en fait, venait en face de la colline de Kanombe, qui était tenue par les forces armées rwandaises et qui, elle, avait des missiles Mistral et non pas des missiles SAM. Alors, comme ce sont des missiles SAM, après enquête, qui ont touché
l'avion,
l'appareil, on se perd en conjecture. On dit, c'est pas possible. C'est les Rwandais n'étaient pas équipés de ce missile, mais en revanche, les missiles sont bien partis de cet endroit-là. Et en revanche, les forces du FPR occupaient la colline d'en face. Et or, les tirs ne sont pas partis de cette colline. Donc, il y a eu, si vous voulez, un grand micmac, une difficulté, évidemment, à dire réellement qui était le coupable. Alors là, nous sommes sur un théâtre d'ombre incroyable, où se croisent des intérêts divergents entre, d'une part, les Anglo-Saxons qui sont derrière les Tutsis et le FPR, et les Français qui sont derrière les Hutus et les FAR. Donc,
les forces armées rwandaises.
Les regards se tournent. Évidemment, réciproquement, les Français auraient tendance à penser que c'est les Tutsis, que c'est donc le FPR, et vice-versa, on va dire non, c'est les Français qui ont voulu se débarrasser d'un président qui n'était pas assez comestible, malléable.
Assez malléable, tout à fait.
Voilà. Alors, Bernard Lugan, dans ses livres, vous l'avez cité, nous avons eu raison de le citer, a tout dit. Il a tout dit, et je crois qu'il a même fait partie d'une commission d'enquête à Arusha,
tout à fait,
en Tanzanie. Et il y a des témoignages postérieurs aux commissions d'enquête, notamment des transfuges Tutsis du camp du FPR, qui accusent nommément Kagame d'avoir programmé l'assassinat du président Habyarimana, ce qui a déclenché, accentué, dirions-nous, le génocide que nous connaissons, permettant à ce moment-là au FPR, qui était beaucoup mieux organisé, beaucoup plus déterminé, de gagner la partie. Et la France s'est retirée du Rwanda, passez-moi l'expression, la queue basse, comme d'ailleurs d'autres, beaucoup d'autres pays africains. Alors, la tendance générale, c'est que, effectivement, ces missiles ont dû être transportés à dos d'homme, comment, par qui, d'une colline à l'autre. Puisque, je le rappelle, les tirs sont partis d'une colline théoriquement occupée par les forces armées rwandaises, alors qu'elle n'était pas équipée des missiles SAM qui, eux, équipaient l'armée du FPR. Voilà. Alors, si on était en Grèce, on pourrait dire que c'est une sacrée salade grecque, mais tout porte à croire que le FPR est responsable de cet assassinat.
D'ailleurs, Paul Kamel, lui, par contre, continue à avoir des mots durs pour la France. Hein. Il n'est pas avare. Et d'ailleurs, il représente, en fin de compte, la perte d'influence de la France.
Ah, bah, tout à fait. Vous savez que
il a interdit la langue française.
L'anglais voilà. est devenu, avant c'était le français, maintenant c'est l'anglais. Bon, voilà. On a perdu toute influence sur le Rwanda. Et bon, le Burundi, enfin, je ne sais pas.
Se projette dans l'est du Congo, là, pour un conflit qui est toujours en cours. Quoi.
Voilà. Le Rwanda est un tout petit pays, mais une petite Prusse centrafricaine. Hein,
on le voit dans leur développement technologique aussi. Hein, insiste beaucoup, justement, sur un pays qui est en train de mettre en place une révolution numérique, notamment. Hein, donc, qui aspire effectivement à être comme vous le dites.
Ah, mais il y a un boom économique. Vous prenez, moi j'ai pas été à Kigali, mais si vous allez faire un petit tour sur Internet, vous regardez les images de Kigali, c'est stupéfiant. Voilà.
Moi j'avais vu ça, j'ai vu plusieurs reportages effectivement, c'est pour ça que je me permets de le signaler. Non, c'est assez étonnant. En tout cas, voilà, c'est un échec aussi pour la France, c'est une tragédie humanitaire.
Oui, parce qu'on a perdu dans l'affaire deux pilotes.
Voilà. Oui, mais et puis je fais allusion, mais c'est aussi au génocide Hutu qui a suivi. Et aujourd'hui, donc, les conflits en cours, là, qui ne sont qu'en fin de compte, que des conséquences. Hein. Alors, nous allons maintenant revenir en Europe.
Oui, hein, vous voulez.
On va franchir même la Méditerranée, et même plus que ça, nous allons revenir à la fois en Europe, et puis en arrière chronologiquement, avec aussi encore une affaire mystérieuse qui a frappé les esprits à l'époque. Donc, en pleine Seconde Guerre mondiale, le sort d'un général polonais prestigieux, qui combattait donc les forces de l'Axe donc dans l'armée polonaise libre, le général Władysław Sikorski.
Alors, le général Sikorski est président du gouvernement polonais en exil. Vous savez que, suite à l'infect pacte germano-soviétique de 1939, l'Allemagne et l'URSS se sont partagés la Pologne, n'est-ce pas ? Deux goinfres à table qui s'emparent chacun d'un gros morceau.
Voilà, parce que d'ailleurs le pouvoir russe actuel aimerait bien faire oublier dans sa révision de l'histoire.
Oui.
Mais continue.
Bah, là, pour la chance de la Pologne, c'est d'être membre de l'OTAN et donc on connaît le traité, l'article 5 du traité, qui rendrait solidaires tous les autres s'il y avait une agression.
Qui rendrait au conditionnel. Ne continue.
Oui, non, mais attendez. Bon, revenons.
À nos Polonais.
Revenons 70 en arrière. Donc le général Sikorski apprend. Par l'ambassade de Turquie, que, en fait, l'affaire du massacre de Katyn, qui a eu lieu en 1943, rappelons-le, 20 000 Polonais exécutés, dont 4 000 officiers, exécutés dans cette ville, dans cette localité, qui était
occupée.
Oui, en fait,
le massacre n'a pas eu lieu en 1943, il y a eu avant. Ça s'est su à partir de 43.
Non, mais le massacre a eu lieu. Oui, oui, bien voilà, sûr. Oui, voilà. C'est en 43 qu'il est révélé.
Exactement.
Autant pour moi.
C'est pas grave.
Donc, vous avez raison de rectifier. Je ne connais plus mes classiques. En 1943, le général Sikorski, président du gouvernement polonais en exil, dont le pays est totalement occupé par l'Allemagne, puisque l'Allemagne, avec son offensive de juin 1941, est parti conquérir des terres soviétiques, donc toute la Pologne a été, entre guillemets, libérée de l'occupation russe, mais elle subit l'occupation nazie.
Oui, avec le gouvernement général, notamment.
Gouvernement général de Pologne.
Qui déborde sur l'Ukraine occidentale.
Et on déterre des fosses communes, et là, on voit des milliers de cadavres en uniforme d'officiers polonais. Et une fois n'est pas coutume, ce massacre-là n'est pas le fait des Allemands.
même si les Soviétiques ont voulu maquiller, notamment en utilisant des pistolets allemands.
Les Soviétiques ont essayé de maquiller, ils ont nié, et on va y venir tout à l'heure, ils ont nié complètement d'avoir été dans ce massacre de masse. Or, la réalité est incontournable, ce sont les Soviétiques qui ont abattu un par un tous ces cadres, parce qu'ils voulaient éliminer le maximum de cadres de la Pologne.
Voilà, les élites.
Or, il y a effectivement la Croix-Rouge internationale de l'époque, avec des puissances neutres, comme la Suisse, le Portugal, la Suède, et qui viennent sur place, qui constatent, cette Croix-Rouge internationale, qu'effectivement, ce massacre est bien le fait de l'occupant précédent, l'URSS. Et le général Sikorski apprend ça, évidemment... Il est frappé de stupeur et il s'en ouvre à ses alliés. Or, son gouvernement réside à Londres. Il s'en ouvre à ses alliés. Il dit « c'est pas possible, il faut rendre public ce massacre commis contre mon peuple par l'Union soviétique ». Et alors là, évidemment, Churchill, par l'intermédiaire de ses sbires, lui fait comprendre que ça serait très dommageable de rendre ça sur la place publique, de faire savoir que des Polonais ont été massacrés par les Soviétiques, alors que l'URSS est en guerre avec l'Angleterre contre l'Allemagne nazie.
Exactement.
Donc, nous avons un contexte géopolitique explosif, où vous avez d'un côté un allié, Churchill, qui soutient les gouvernements en exil, les Belges, les Hollandais, les Luxembourgeois, etc. Enfin, tous ces gouvernements qui ont fui l'occupation nazie et qui sont réfugiés, le Comité de la France Libre, qui sont réfugiés à Londres, et le Polonais, là, il explose. Il a dit, c'est pas possible, je vais rendre ça public. Et alors, il a les documents. C'est l'ambassade de Turquie qui lui a fourni des documents. Il a tout ce qu'il faut. La Croix-Rouge aussi. Il a été alimenté d'informations très précises. Et un jour, il fait escale le 3 juillet 1943 à Gibraltar, place forte au sud de l'Espagne, et il est reçu par le gouverneur, par le gouverneur, il est accompagné, lui, Sikorski, par sa fille, qui ne le quitte jamais, qui est sa secrétaire particulière, et puis par tout un aréopage d'officiers et de résistants avec lui. Et on lui conseille fortement de ne pas rendre public cette abomination. Et même le gouverneur se penche vers la fille du général et lui dit « Mais au fait, pourquoi vous ne resteriez pas là quelques jours voilà, comme ça, au détour d'une conversation, on lui glisse dans l'oreille qu'il serait peut-être mieux qu'elle ne reparte pas avec son père. » Et le lendemain, 4 juillet, le B-24 est un bombardier.
Liberator,
merci de le préciser, s'envole. Oh, il ne va pas voler longtemps. Il s'envole et il s'abîme en mer au bout d'un millier de mètres, peut-être, de la piste. Et il y aura un seul survivant, chose troublante, un seul survivant, un nommé Pralé, qui est un pilote tchèque qui sert la Royal Air Force et dont on n'entendra plus jamais parler. Cet homme est tenu. Il est tenu par les services anglais, car il est endetté jusqu'au cou et il est alcoolique. Et on l'a menacé de la perte de sa licence de pilote s'il était trop, comment dirais-je, bavard. On a retiré, bien entendu, de la carlingue les cadavres du général Sikorski, de ses accompagnateurs. Très curieusement, on n'a pas retrouvé celui de sa fille, dont on n'a plus jamais entendu parler. Alors, à son sujet, il y a plusieurs hypothèses. Une hypothèse folle, son corps aura été déplacé et mis à l'écart des autres, ou, au contraire, elle ne serait pas morte dans cet accident, elle aurait été kidnappée la veille ou sauvée par miracle et elle aurait terminé sa vie en Union soviétique. Mais ça, ce sont des rumeurs totalement incontrôlables. Par contre, ce qui est incontournable, c'est qu'effectivement, Sikorski, président de la Pologne libre, meurt noyé dans un avion anglais au moment où il allait annoncer publiquement le massacre dont nous avons parlé. Or, objectivement, nous savons que Churchill est un homme d'État à sang-froid. Nous savons que les nations n'ont pas d'amis, qu'elles n'ont que des intérêts. Quel était l'intérêt de l'Union soviétique ? Certainement pas de faire savoir au monde, urbi et orbi, qu'elle avait trempé dans un assassinat de masse. Elle aurait menacé les puissances occidentales, à commencer par le Royaume-Uni, de se retirer du front commun contre l'Allemagne et de faire un traité de paix séparé avec l'Allemagne nazie, comme les Russes l'avaient fait en 1917 avec l'Empire germanique. La supposition qui est faite par beaucoup d'historiens, c'est que les Anglais ont cédé au chantage soviétique et qu'ils ont participé à l'élimination du général Sikorsky.
Ah, ce ne sera pas la dernière fois d'ailleurs.
Voilà la thèse que je développe, que j'argumente dans ce chapitre.
Voilà. Je me rappelle d'ailleurs aussi d'une docu-fiction qui était passée sur Arte, qui est abondée aussi dans votre thèse, quoi, dans la thèse que vous développez. Effectivement, elle est extrêmement plausible, de cette manière, hein, quand on voit comment les choses ont pu se poursuivre, hein, et se développer. Donc voilà, collusion britanno-soviétique, et pour éliminer un personnage gênant qui risquait de compromettre, en fin de compte, donc, l'alliance contre nature entre le camp des démocraties
pour ajouter quelque chose à ce faisceau, à ces indices, curieusement, l'ambassadeur d'Union soviétique, un certain Van Majewski, qui était le bras droit de Beria, c'est pas rien. Oui. L'ambassadeur du RSS, n'est-ce pas, vient se poser le jour même à Gibraltar. Et où se pose son avion, qui est identique au B-24 du général Sikorsky, il se pose à côté. Bien plus tard, un Tommy's, vous savez, c'est les Anglais, un soldat anglais, bien plus tard, témoignera avoir vu un homme, la nuit, quitter l'appareil de fabrication britannique, mais soviétique, et se glisser dans l'appareil britannique. Bon, voilà. Un témoin. Voilà, donc, mais on n'en a plus entendu parler.
Voilà, en tout cas, une question qui rentre dans le cadre de ces événements controversés de la Seconde Guerre mondiale. Alors, un autre personnage aussi qui a joué un rôle quand même important pendant ce conflit mondial, en particulier au sein des forces françaises libres, c'est un certain Philippe Leclerc de Hauteclocque.
Alors le général Leclerc, c'est une figure emblématique de la résistance française et du combat contre l'Allemagne nazie sur les fronts outre-mer. C'est le fondateur de la 2e division blindée, c'est l'homme de Couffrat, c'est l'homme du serment de Strasbourg.
Voilà. Si je peux me permettre vous taquiner un petit peu. Je ne sais pas, j'ai cru noter un petit oubli dans votre évocation des hauts faits du général Leclerc au sein des forces françaises libres. Mais il y a eu aussi l'affaire de Bad Reichenhall, avec cette exécution, cette exécution de Français sous uniforme allemand, qu'on peut quand
glorieux.
Même considérer comme un crime de guerre, quoi, parce que la paix
glorieux.
Avait été signée.
Oui.
Voilà, donc je ne sais pas si c'est un oubli.
Non, vous pouvez mettre ça sur le compte d'un oubli. Ça peut légèrement salir l'image de marque du général.
Ça ternit un petit peu. Enfin, bon,
ça ternit l'image de marque, effectivement. Non. Général devenu maréchal à titre posthume, mais vous avez bien fait de le rappeler.
Vous n'étiez pas le seul, hein. Moi, je vous rappelle aussi de Michel Barmet qui avait consacré une biographie aux éditions Chroniques et qui avait aussi oublié cet événement.
On n'a pas vécu cette époque-là. Ouais. Moi, je suis né dans la dernière année de la guerre, ouais. Donc je n'ai pas été contemporain. J'en ai beaucoup entendu parler mes proches, j'ai vu des films, j'ai énormément lu. C'était quand même une sale époque où on se haïssait.
Non, mais les passions étaient vraiment vives, ça.
Très vives.
D'ailleurs, on raconte que Leclerc avait reproché à ses hommes d'avoir porté l'uniforme allemand, et l'un d'entre eux aurait rétorqué, mais vous portez bien l'uniforme américain. Je pense qu'il aurait pris la bouche.
Oui, mais effectivement, ils se seraient abstenus de cette remarque, ils auraient eu la vie sauve, très probablement.
Très probablement. Mais en tout cas, voilà, on ne va pas réécrire l'histoire.
Au drame qui lui est arrivé, puisque le 28 novembre 1947, le général Leclerc, qui a eu beaucoup de fonctions, là, il est général 5 étoiles, et il revient d'une tournée d'inspection en Afrique du Nord. Son avion, c'est un bombardier B-25 Mitchell, de fabrication américaine, et il revient du sud algérien pour regagner Alger, et à 34 km au nord de Colombéchard, son avion va s'écraser contre un remblai du ballast de la voie de chemin de fer. Et ce qui va poser... En fait, normalement, on ne serait pas posé de questions. Ça aurait dû effectivement être expliqué par le fait qu'il y avait une tempête de sable et l'avion serait évidemment crashé parce qu'il volait trop bas. Donc, mettons ça sur le compte de la tempête de sable. Mais ce qui est très bizarre, c'est que là, comme dans le cas du secrétaire général de l'ONU, on trouve un corps supplémentaire.
Voilà, un 13e cadavre.
Absolument. Comme pour M. Dagmarsholt, on trouve quelqu'un qui a été embarqué alors qu'il n'était pas prévu. Première chose suspecte. Deuxième, alors, il y a une deuxième chose suspecte également, qui dit que, mais alors là, seuls les spécialistes de l'aéronautique pourraient dire si ça peut avoir une influence ou pas. On aurait ajouté, dans la queue de l'appareil, le B-25, on aurait ajouté une couchette. Je doute que ça déséquilibre beaucoup l'appareil.
D'accord.
Alors, voilà, le contexte, on le connaît, mais il y a quelque chose de plus mystérieux, comme une odeur de pétrole.
Ah.
Nous y reviendrons sans doute tout à l'heure en parlant de M. Mattei. Il y a une odeur de pétrole. Figurez-vous qu'il y a un certain Georges Kilian. Pas le genre...
Donc,
pas...
Conrad Kilian.
Conrad Kilian, voilà, ah, c'est pas le gentleman brasseur.
Hein. Voilà, exactement.
Un géologue qui...
Lapsus révélateur, d'ailleurs,
oui.
Mon cher Jean-Claude.
Qui, dans l'entre-deux-guerres, avait affirmé urbi et orbi qu'il y avait dans le sous-sol saharien du gaz et du pétrole. Personne ne l'a écouté. Personne ne l'écoutait. Il a eu les oreilles favorables du général Leclerc, qui voulait approfondir la question. Leclerc le soutenait dans cette thèse. Or, il y avait une guerre secrète anglo-française pour la possession du Fezzan. Le Fezzan, c'est l'une des trois provinces constitutives de la Libye à l'époque. Tripolitaine, Cyrénaïque, Fezzan. C'est d'ailleurs Fezzan, c'est Koufra. Donc Leclerc...
Le lieu de haut fait des forces françaises.
Absolument.
Libres.
Et Leclerc, probablement, au nom de la France, voulait considérer que le Fezzan pouvait rester sous le contrôle français. Or, plus cette affaire de pétrole. Et alors, chose bizarre, le fameux géologue a été retrouvé pendu en 1950 à Grenoble.
Il était mal de sa peau, peut-être, ce monsieur, non, non. Il y a une tendance à la dépression, non.
Il y a, si vous voulez... Alors, il y a aussi une autre théorie, mais celle-là est quand même raisonnablement écartée. On a dit que le général de Gaulle était jaloux de la popularité du général Leclerc et qu'il l'aurait éliminé. Non, ça,
oui,
c'est pas sérieux. Ça, c'est... Alors là, ça vient des milieux farouchement anti-gaullistes et ça tient pas la route.
D'accord. Bon, en tout cas, encore
c'est un mystère. C'est un mystère.
Ça reste un mystère. Alors, une courte pause pour un bobino concernant notre radio, puis nous reprenons l'antenne.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, nous allons rester dans les odeurs du pétrole, avec quelqu'un aussi qui a défrayé la chronique, et qui d'ailleurs a inspiré récemment une petite biographie dont je reparlerai tout à l'heure. Il s'agit de l'Italien Enrico Mattei.
Alors, Enrico Mattei est un personnage effectivement sulfureux, en tout cas pour les intérêts français. Le 27 octobre 1962, il est à bord d'un avion à réaction Morane-Saulnier de type MS-760, entre guillemets Paris, qui est un petit avion quadriplace qui sert notamment d'avion-école, qui a été acheté d'ailleurs par des pays comme la France, l'Argentine, et le Brésil et l'Iran. Vous voyez, donc c'est un avion qui avait du succès. Et donc lui, il a cet avion pour lui, un avion d'affaires, et il se rend de Sicile à Milan. Et l'avion va se crasher à Bescape, en Lombardie. Alors, là encore, rien n'est formel, on ne peut rien dire, Est-ce que c'est un pépin mécanique ou est-ce que c'est un attentat soigneusement préparé? Si nous prenons la version de l'attentat, posons-nous la question « Pourquoi ?» M. Mattei, c'était l'homme du pétrole italien.
De la compagnie ENI.
Voilà. La compagnie ENI, qui d'ailleurs continue à distribuer de l'essence dans nos stations.
À Jeep.
À Jeep, oui. Et alors, ce drame se déroule sur fond de guerre d'Algérie. 1962, la guerre d'Algérie est en principe terminée depuis le mois de juillet, mais il n'a pas cessé. Pendant toute cette période, la fin des années 50, le tout début des années 60, à prospecter pour le compte de sa compagnie et surtout à émettre des avis éminemment favorables au FLN. Or, c'est pas n'importe qui. C'est pas M. Dupont qui dirait « Vive l'indépendance algérienne ». Non, c'est M. Mattei, le magnat du pétrole italien. Or, dans certains milieux, on a pu considérer qu'il était gênant. D'autant plus gênant que le pétrole, à ce moment-là, on savait qu'il y en avait, puisque les Français avaient commencé à exploiter Hassim et Saoud. Et Mattei, lui, en soutenant les Algériens, misait sur le fait qu'après l'indépendance, le gouvernement algérien serait très généreux avec sa compagnie. Objectivement, ça gênait les intérêts français. Alors on a parlé d'un attentat, mijoté par... la main rouge. Alors la main rouge, c'est quelque chose de mythique. En fait, c'est le fauné très probablement de certains services action du SDEC de l'époque, à savoir le service de documentation et de contre-espionnage. Seuls les survivants de cette époque-là pourraient infirmer ou confirmer. Toujours est-il que Mattei a été éliminé. Alors, il a donné sa vie, ce drame a donné naissance à un film du cinéaste Francesco Rossi en 1972 et qui, lui, accrédite tout à fait la thèse de l'attentat car Mattei avait beaucoup d'ennemis compte tenu de cette position pro-FLN. Et alors, chose très curieuse, c'est que ce Francesco Rossi aurait envoyé un jeune homme pour... étudier, n'est-ce pas, le parcours de la vie d'Enrico Mattei, peut-être d'un peu trop près. Toujours est-il qu'on n'a jamais retrouvé, on n'a jamais eu de nouvelles de ce jeune homme, qui était un apprenti journaliste. Voilà.
Il y a une chose, pour raconter un point que vous ne développez pas vraiment dans justement le chapitre consacré à Mattei, mon cher Jean-Claude, c'est que bon, ce qui gênait aussi beaucoup de monde chez Mattei, notamment les fameuses sept sœurs, ces compagnies pétrolières anglo-saxonnes, c'est qu'il avait, lui, pris le parti de proposer à des pays nouvellement indépendants et riches donc en hydrocarbures, des accords très favorables, très avantageux. Où on allait au-delà du 50-50. Alors, oui. Donc, il avait signé des accords très favorables avec l'Iran, avec l'Égypte du Jardin Nasser, où justement ces pays pouvaient être gardés jusqu'à entre 70-75% des ressources.
C'est une idée que la France aurait pu mettre en avant dans le cadre de l'OCRS, l'Organisation Commune des Régions Sahariennes, au moment où la France était encore souveraine en Algérie au Sahara. Si la France avait mis en commun, les ressources pétrolifères et gazières avec la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Maroc, il n'y aurait pas eu d'Algérie indépendante.
En tout cas, bon, voilà, Mattei, aujourd'hui, ben, revient un petit peu dans l'actualité parce qu'il inspire la politique énergétique et d'indépendance de Giorgia Meloni. C'était une question qui est extrêmement intéressante.
J'aimais l'hypothèse, effectivement, que ce serait plutôt les Français qui s'en seraient débarrassés, mais effectivement, là aussi,
ça arrangeait aussi les compagnies anglo-saxonnes.
Ça arrangeait aussi les compagnies anglo-saxonnes. On est bien d'accord.
C'était un trublion qui faisait irruption sur cette scène-là et qui gênait beaucoup de monde.
À partir du moment où il a soutenu Orbi et Orbi, le FLN, et surtout qu'il a misé sur le futur gouvernement algérien pour avoir les avantages pour sa compagnie, là, à mon avis, il était mal parti.
Voilà. Je vous rappelle, vous êtes à l'écho de Radio Courtoisie, du Libre Journal de Pascal Lassalle, qui aujourd'hui a le plaisir de recevoir une nouvelle fois Jean-Claude Rollina pour son dernier ouvrage publié, L'Avion, ce mystérieux tueur de célébrités. Donc, après Enrico Mattei, Ben, nous allons revenir en France un petit peu avec quelqu'un qui avait un petit peu défrayé la chronique, notamment de l'actualité, dont on parlait aux journaux télévisés, ça je m'en souviens, président, créateur de la FNAC, je crois, si je me souviens bien, Michel Barouin.
Alors, monsieur Michel Barouin, c'était pas...
Alors, lui aussi, il a pris l'avion une fois de trop.
Oui, mais on va y venir. C'est pas n'importe qui. Ben, d'abord, c'est le papa de l'actuel maire de Troyes. Ça a été le maire de Nogent-sur-Seine.
Oui, c'est Harry Potter, avec ses petites lunettes.
Oui,
voilà,
non, mais son fils, qui est toujours maire de Troyes. Et il était, lui, maire de Nogent-sur-Seine, qui est une commune voisine de... Enfin, assez proche de Troyes. Surtout, il était l'ancien grand maître...
Du Grand Orient.
Du Grand Orient.
C'est pas n'importe quelle obédience maçonnique.
Alors là, c'est quand même... Dans notre belle république... laïque, on connaît l'importance des milieux maçonniques.
Ouais,
et
surtout cette
obédience. Et c'était pas n'importe qui, cet homme-là. Oui, vous avez parlé de la FNAC, il a été président de la FNAC. Et il a été aussi président d'une société, et c'est là, je pense, qu'il a malheureusement dû payer les pots cassés pour un tas de choses. Il était président de l'Eurodif, qui était une société... après la Sodif aussi, qui était une société mixte avec beaucoup d'intérêts convergent, à savoir la France et notamment l'Iran, qui se lançait déjà dans la piste nucléaire.
Voilà, c'est un consortium d'enrichissement d'uranium.
Tout à fait, mais à but civil. Et à l'époque, c'était le Shah d'Iran qui était au pouvoir, donc le Shah d'Iran était en odeur de sainteté dans les milieux occidentaux. Et il y a eu un contentieux, même à l'époque du Shah, avec cette société, la Sodif, qui était un enfant de l'Eurodif, où il y avait une question de participation.
Sofidif, me semble-t-il, non ?
C'est pas Sodif ?
Sofidif, bon, peu importe, voilà.
Cette société-là, où il y avait une, disons, une divergence au niveau des intérêts et des pourcentages à se répartir entre les différentes parties. Et puis, l'affaire était pendante, comme diraient les avocats, et le Shah d'Iran est renversé et remplacé par le régime que nous connaissons. Alors là, le contentieux avec les ayatollahs va être de plus en plus fort. Rappelons-nous quand même un certain nombre de choses. Ce régime nous a pris des otages. Ce régime a pris des otages et les a gardés un certain nombre d'années par devers, lui. Ce régime est derrière l'attentat du Drakkar qui a coûté la vie à 58 parachutistes à Beyrouth en 1983. Ce régime est derrière les attentats, un certain nombre d'attentats commis à Paris, par l'intermédiaire de proxys comme le Hezbollah notamment. Et on ne peut pas dire que ça soit un ami de la France. Et succédant le contentieux pendant... n'est-ce pas, avec les Français, le régime des ayatollahs succédant à celui du Shah, le litige n'est pas réglé. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est M. Barouin qui va être intimidé. Le 5 février 1986, il y a un attentat à la FNAC. Bizarre. Le 26 avril, deux mois après 1986, sa fille Véronique est renversé par une automobile dont on ne retrouvera jamais le conducteur.
Voilà, en plein Paris.
Donc, supposition. Autre chose, son ami Georges Besse, président de Renault, qui avait été aussi l'une des parties prenantes d'Eurodif, a été assassiné par Action Directe. Action Directe était liée à Ibrahim Abdallah, une marionnette des ayatollahs. Donc, tout ça, quand même...
Ouais, c'était le 17 novembre 1986, pour le meurtre de Georges
Besse. Tout ça, si vous voulez, brosse un tableau assez noir. Monsieur Barouin était-il la cible désignée à titre de vengeance, à titre d'avertissement ? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, il est parti en mission sur consigne de M. Jacques Chirac, avec qui il était très proche, Et il est en Afrique, à bord d'un jet qui s'appelle l'Airjet, un petit avion d'affaires. Et il a avec lui 8 collaborateurs, et plus l'équipage, 2 pilotes. Et cet avion va s'écraser au-dessus du Cameroun. Alors là encore, mystère et boule de gomme, passez-moi l'expression. L'enquête ne va rien déterminer. Il avait pris l'avion à Brazzaville. Est-ce qu'à Brazzaville, il y a eu une possibilité de mettre à bord une bombe? On n'en sait rien. Alors là, est-ce que c'est l'accident? La faute a pas de chance. En tout cas, sur le plan climatique, rien ne pouvait entraver le vol de l'appareil. Reste effectivement la piste de l'attentat. Il y a tout un contexte, effectivement. Est-ce que M. Barouin a été la victime expiatoire française des supposées, entre guillemets, petites méchancetés que la France aurait fait à l'Iran dans l'affaire Eurodif?
En tout cas, on parle d'une déflagration, donc il semblerait qu'il y ait une explosion.
Oui, non, mais c'est pour ça. Il n'a pas... Il y a explosion, donc... Mais après, si vous voulez... Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais enfin, même les spécialistes, vous savez, c'est difficile de dire si ça a été un tir de missile, si c'est une explosion, quel type de munitions aurait pu jouer un rôle. Bon, c'est pas évident. Hein. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Et voilà, bon, c'est encore une victime de plus.
Alors, des victimes, on va peut-être en aborder une ou deux, selon le temps qui nous reste. Mais on va revenir dans l'Est de l'Europe. Encore revenir en Pologne, si je puis dire, avec Lech Kaczynski, donc, qui est jumeau du président d'un parti qui avait fait beaucoup parler de lui récemment, qui a perdu le pouvoir il y a quelques mois, le parti de justice.
Oui, parti le parti droit et justice.
Droit et justice,
le PIS,
pardon, le PIS, PIS, le fameux PIS, voilà. PIS, oui. Dont Lech Kaczynski, qui lui aussi a perdu la vie d'un accident d'avion qui a suscité pas mal de pistes et de controverses.
Oui. Alors là, on a parlé de Katyn tout à l'heure. Eh bien, Katyn porte malheur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il se fait que le 10 avril 2010, le président Lech Kaczynski et sa femme, plus 94 personnes qui représentent un aréopage de généraux, de ministres, bref, des sommités polonaises, à l'appareil politique de haut niveau, accompagnent le président à bord d'un Tupolev Tu-154.
Les Tupolev,
moi j'ai volé à bord, en Bulgarie, ouais, à bord d'un Tu-154, et c'était quand même, dans ces années-là, un appareil qui tenait à peu près la route, quand même.
Moi, j'ai fait mieux que vous, un Antonov 26, un IA-42.
Ah oui, non, mais ça, je vois ce que c'est pire. Moi aussi, à Cuba, on a eu ça, avec l'étoile qui vibre.
Ah, l'Antonov, ça vibrait, voilà, au décollage. L'Antonov 26, c'est le décollage dans la neige, quoi.
Voilà, dans le TU-54, moi, je me serais cru dans la branche d'une Caravelle ou d'un Boeing 727. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Tupolev 154, à 10h41 exactement, s'écrase près de Smolensk. Or, il y avait énormément de brouillard, et surtout, l'aéroport de Smolensk n'était pas équipé du système ILS qui permet l'atterrissage sans visibilité.
Voilà, aux instruments sans visibilité.
Alors, les aiguilleurs du ciel russes avaient fortement conseillé par radio, on a les bandes, hein, avaient fortement conseillé par radio aux pilotes polonais d'aller se poser ailleurs. Alors, les hypothèses sont effectivement nombreuses. On pense tout de suite à la Russie. Mais objectivement, le jour où une délégation officielle polonaise vient à Smolensk pour s'incliner, n'est-ce pas, dans l'affaire de Katyn, alors que l'URSS est morte et que la Russie de Poutine a reconnu le crime, le lendemain, écoutez, le lendemain...
Ils l'ont reconnu à l'époque, aujourd'hui, ils sont revenus en arrière.
Oui, ça, le lendemain de la catastrophe, sur une chaîne de télévision russe, on a diffusé le film Katyn d'Andrzej Wajda. C'est quand même pas mal.
Bon, après, on peut dire qu'on connaît un petit peu aussi les services secrets russes, héritiers donc
oui,
du KGB,
alors ça peut être...
qu'on peut
alors,
se dire, voilà, ils peuvent jouer
effectivement,
là-dessus, là, se dire, bon, alors, on ne va pas nous suscepter, parce qu'en fait, voilà, il n'y avait pas de raison. Quoi.
Cherchons à qui profite le crime, voilà. Le crime ne profite pas à la Russie, voilà. Donc la Russie fait le crime. C'est votre raisonnement.
Ça s'est déjà vu.
Bon.
Attention, je dis que c'est pas une hypothèse à écarter d'un revers de main. Voilà. Mais bon, alors, ceci dit.
Moi,
voilà.
Écoutez, je ne partage pas tout à fait. Alors, on a dit, on a accusé la vétusté de l'appareil. Moi, je ne suis vétusté de l'appareil. Bon, on a...
C'est un appareil militaire quand même, qui doit être révisé régulièrement.
Moi, je crois pas du tout à cette voilà. thèse de l'appareil qui ne serait pas conforme, qui ne serait pas en état de vol. Il a quand même, effectivement, c'est pas n'importe qui à bord. Je pense quand même qu'au niveau de l'armée de la polonaise, on a fait le nécessaire pour qu'il soit nickel.
Par contre, les boîtes noires, je crois, à ma connaissance, les Russes ont toujours refusé de livrer les boîtes noires à la Pologne.
Oui, alors, le Brésil, oui, le problème, c'est que le fabricant, il est russe. Effectivement, c'est un avion russe dont les passagers sont polonais qui se posent en Russie pour commémorer un crime de masse russe contre des Polonais. Vous avouerez franchement que le chien se mord la queue. Alors, moi je pense plutôt qu'il y a peut-être eu l'orgueil, la fierté polonaise, peut-être que le président Leszczynski a dû dire au pilote « non ». Il y va de notre prestige, tu te poses là. Bah,
pour abonder dans votre sens, effectivement, j'ai lu des témoignages qui abonderaient dans ce sens aussi.
Alors,
voilà, qui seraient obstinés.
On connaît un petit peu le
caractère aussi de Kaczynski.
C'est pas
voilà,
impossible. C'est solennel, c'est quand même Katyn. C'est symbolique.
Non, mais c'est pas impossible.
Or, le pilote aurait dit à son président qu'il avait reçu des conseils, des consignes de la part des avionneurs, des aiguilleurs du ciel russe, d'aller se poser ailleurs compte tenu de la non-visibilité sur la piste de Smolensk. Or, le pilote a dû peut-être obéir au président, essayer de poser son appareil, mais ça s'est mal passé.
Ouais.
Il a raté la piste, il s'est écrasé plus loin. Donc, voilà. Alors, les boîtes noires, c'est très troublant, effectivement.
Bon, c'est vrai que le climat actuel ne favorise pas un assouplissement dans la position russe.
Non, mais je vois difficilement...
La guerre généralisée déclenchée en Ukraine, quand même. Je
vois quand même difficilement des agents russes s'infiltrer en Pologne, au sein de l'armée de l'air polonaise, qui entretient l'appareil du président. Quand même, ça me paraît énorme. Bon, tout est possible. Alors, c'est vrai, chercher à qui profite le crime, ça ne profite pas aux Russes. Donc, effectivement... Raisonnement tordu, les Russes vont se dire « ça ne nous profite pas à nous, c'est ce que va penser l'opinion publique, allons-y ».
Si on veut faire un raisonnement tordu, on peut dire « tiens, on va avoir une belle occasion de décapiter à nouveau une partie des élites polonaises sur lui même ».
Oui, une symbolique quand même assez atroce.
On sait quand même que les services secrets russes et ex-soviétiques
sont tordus.
Bon, ils ont ce type de raisonnement, on l'a pu le voir dans certaines affaires, maintenant, bon, voilà. Moi, simplement, ce que je permets de dire, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, c'est qu'aucune piste ne peut être écartée, et même celle-ci, de certaine manière, en tout cas, radicalement.
Même cette piste démoniaque que nous avons évoquée.
Voilà. Alors, pour terminer, on va le faire assez rapidement, mon cher Jean-Claude, on reste aussi, nous parlions des Russes, aussi une personnalité plus que controversée, qui a sévi, on va dire, sur le théâtre d'opérations ukrainiens, en particulier depuis le déclenchement de la guerre généralisée le 24 février 2022, mais également sur d'autres théâtres d'opérations, en Afrique notamment pour nous tailler des croupières. Il s'agit du cuisinier du Kremlin, Yevgeny Prigojine.
Alors,
auquel d'ailleurs, moi, je le signale, un de mes invités réguliers, Michel Vial, avait consacré aussi une biographie, il y a quelques mois, parue chez Histoire et Collection. Alors, allez-y, mon cher Jean-Claude.
C'est un personnage troublant qui a fait de la prison, il a été le cuisinier de Poutine, il a réussi dans les affaires, et il a monté une milice militaire, la milice Wagner.
Oui, voilà, une société militaire privée.
Voilà, militaire privé qui donne un coup de main à l'armée régulière russe, et puis, en fait, à un moment donné, probablement que tout ça lui est monté à la tête, et que le vizir a voulu, l'apprenti vizir a voulu être vizir à la place du vizir. Or, avec Poutine, on ne doit pas jouer à ce petit jeu-là. Or, il soulève une partie de ses troupes qui marchent sur le quartier général de l'armée russe qui commande le front ukrainien.
Rostov-sur-le-Don.
Ah, tout à fait, à Rostov-sur-le-Don. Et en fin de compte, ça va se terminer quand même entre frères d'armes. Donc, il va baisser pavillon. L'armée, le groupe Wagner va être incorporé officiellement à l'armée russe. Et lui, il va s'écraser en fin de compte. Et Monsieur Poutine va pardonner. Mais le pardon de M. Poutine, c'est pas du 100%. Alors,
C'est toujours très provisoire.
Un jour, donc, le 23 août, l'affaire, c'était en juin. Vous allez voir quand même que c'est rapide. La tentative de mutinerie a lieu les 23 et 24 juin, 2023. Et ça se termine par l'enrôlement des milices Wagner au sein de l'armée russe qui combat sur le front ukrainien. Et donc, monsieur Prigojine, le 23 août, c'est-à-dire pratiquement 2 mois après, rentre à Saint-Pétersbourg à bord de son avion, qui est un avion de fabrication brésilienne.
Un Embraer, oui.
Ouais, un Embraer. Legacy. Il est parti de l'aéroport de russe de Cheremetyevo, qui était l'un des aéroports de Moscou, pour Saint-Pétersbourg. Et il va exploser l'avion au-dessus d'une localité qui s'appelle Kopudjenkino. Boum. Alors.
Il n'était pas seul d'ailleurs.
Il n'était pas seul.
Il avait un certain Dimitri Outkin, bien connu pour des tatouages.
Garde du corps, voilà. Son numéro 2.
Ces tatouages qui montraient qu'il n'a pas été dénazifié, d'une certaine manière.
Alors, voilà. Pour l'avion la rhétorique. Tombe en vrille. Ça a été filmé de 6000 mètres d'altitude. Évidemment, il y a une carcasse éparpillée au sol. Et curieusement, en faisant ce qu'il en restait. Une autopsie du corps de monsieur Prigojine, on a retrouvé des fragments d'impact externes, à savoir que ça ne serait pas l'effet d'un tir de missile. Ça présupposerait qu'une bombe ait été placée à bord et que l'avion n'ait pas été abattu par une fusée tirée du sol. D'ailleurs, Poutine lui-même a crédité la thèse de l'attentat. Mmh. Donc, là, est-ce que c'est signé ou pas? Moi, je crois que l'homme de confiance qui a trahi son maître, forcément, devait périr de la façon que l'on voit.
Ben là, on en peut varier ses plaisirs, hein, entre la tomber dans l'escalier d'une fenêtre, boire un thé qu'on ne digère pas. Donc c'est vrai que beaucoup de membres de l'oligarchie moscovite, hein, qui gravitaient dans le domaine énergétique ou des structures de force, ont mystérieusement ou disparu. Enfin, le message est assez clair, en tout cas. Hein, pour ceux, voilà. Ceux qui étaient soupçonnés un petit peu de tiédeur ou de trahison envisagée.
On prête qu'aux riches, hein.
Ouais. C'est une manière. Bien. Écoutez, cette émission s'achève malheureusement. Une dizaine de minutes me reste pour faire mes chroniques toujours à l'arrache et au pas de charge. Alors, je rappelle donc le titre de votre ouvrage, mon cher Jean-Claude. Donc, Jean-Claude Rollina, avec un T à la fin. L'avion, ce mystérieux tueur de célébrités. Donc, publié par les éditions Maya pour la modique somme de 21 euros. Donc, les éditions Maya qui sont sises au 121 rue Amelot 75 dans le 11e arrondissement parisien. Et puis, il y a aussi, on peut se le procurer
dans toute librairie.
Dans toute librairie, je pense que voilà, c'est assez bien diffusé. Alors, très rapidement, mes petites recensions du mois. Alors, je parlais tout à l'heure d'un petit livre qui a été consacré à Enrico Mattini, qui est une traduction de l'italien, qui a été signé par Filippo Bourla, qui est un diplômé en sciences politiques et un journaliste à l'excellent journal italien Il Primato Nazionale. Donc, Filippo Bourla vient de publier dans la collection Longue Mémoire de l'Institut Iliade, aux éditions de la Nouvelle Librairie, un ouvrage intitulé Enrico Mattei, architecte d'une souveraineté énergétique moderne, avec une longue préface de Lionel Rondouin, qui est un des formateurs de l'Institut Iliade. Il y a également une petite annexe sur le plan Mattei. Donc c'est vraiment un petit livre que je recommande fortement pour donner l'exemple justement de quelqu'un qui fut l'architecte foudroyé d'une souveraineté énergétique de son pays, un exemple que nous pourrions adopter en Europe. Roger Nimier est à l'honneur aussi ces derniers temps, avec 2 publications qui le concernent, enfin une qui le concerne partiellement. Il s'agit toujours de la revue Livre Arbitre, que j'ai toujours le plaisir de chroniquer dans cette émission pour sa 52e livraison, donc un numéro toujours très riche de cette littérature qui aborde les domaines de la littérature, de l'histoire des idées, avec de nombreux entretiens, portraits, et multiples recensions. Donc là, numéro très riche avec justement ce portrait de Roger Nimier, et bien sûr du phénomène des hussards, des dossiers sur le diable en littérature et sur le surréalisme en tant que projet philosophique, des entretiens avec Marc Obregón, Jean-Paul Kaufmann ou Luc-Olivier Dalgange, des noms qui sont familiers à certains auditeurs, et puis les chroniques habituelles. Donc c'est voilà, un numéro de plus de 160 pages, toujours avec de très belles factures, que je recommande une fois de plus. La deuxième publication concernant Nimier n'est autre qu'un ouvrage de Thierry Bouclier. Thierry Bouclier qui a déjà été invité dans ce studio par plusieurs collègues. Donc Thierry Bouclier vient de publier dans la collection Qui suis-je des éditions LIF. Les éditions LIF sont des éditions qui succèdent aux fameuses éditions Pardès qui sont toujours animées par Georges et Fabienne Gondinet. Donc toujours la même maquette, toujours le même format. Format de petits volumes richement illustrés et toujours très dense. Donc, petit qui suis-je consacré à Nimier par Thierry Bouclier, qui est déjà venu dans ce studio dans le cadre de plusieurs émissions. Donc, que je recommande aussi fortement pour les amateurs des hussards et de ce phénomène, de ce météore un petit peu de la littérature française qui aimait peut-être un peu trop la vitesse et les voitures. Donc, Roger Nimier par Thierry Bouclier, donc aux éditions LIF, dans la collection Qui suis-je. Toujours dans la collection Qui suis-je, qui est parue presque de manière concomitante, un Qui suis-je consacré à une figure controversée de l'Antiquité qui, elle aussi, a suscité pas mal de débats, de clichés aussi, s'il s'agit de l'empereur romain Néron, cet empereur du 1er siècle, qui se croyait artiste, en tout cas c'est une image qu'il a dégagée. Alors ce Qui suis-je est signé par Marie-France de Palacio. Marie-France de Palacio donc, est une chercheuse, une universitaire qui a beaucoup travaillé dans le domaine des littératures françaises et comparées. Donc elle est spécialiste en particulier de la littérature du 19e siècle et de la réception de l'Antiquité. Voilà, donc elle a sorti déjà un certain nombre d'ouvrages. Alors son ouvrage est intéressant dans le fait que ce n'est pas uniquement une biographie, mais également une étude des représentations et de la postérité de cette figure néronienne. Donc elle revient un petit peu dans les domaines bien sûr de la littérature, mais également des arts, du cinéma. Elle étudie un petit peu voilà, les débats que cette figure controversée a pu provoquer. On se souvient de l'incendie de Rome, de sa mort aussi tragique, dans une période déjà où l'Italie et l'Empire reconnaissait à nouveau des guerres civiles. Donc c'est un ouvrage voilà, qui est richement illustré d'ailleurs, on le voit avec une iconographie qui renvoie à cette période et qui intéressera tous ceux qui se passionnent pour l'Antiquité, pour cette période de l'Empire romain, ce 1er siècle après Jésus-Christ. Donc voilà, c'est passionnant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je m'étais procuré à l'époque la biographie de Eugen Sichek, qui était une des plus connues, et d'ailleurs qui est rapportée dans la biographie. Donc là, c'est un ouvrage qui complète vraiment donc, tous ceux qui sont des passionnés de l'Antiquité romaine, qui montre en fin de compte la permanence des débats et de la réception de l'image de cet empereur tragique que fut Néron. Donc Marie-France de Palacio, donc Néron, dans la collection Qui suis-je, donc aux éditions LIF. Il nous reste 4 minutes, mon cher Jean-Claude, une petite conclusion concernant à la fois votre ouvrage et peut-être aussi une anticipation de travaux, de publications futures.
Alors, travaux futurs, j'ai dans les tuyaux une biographie du général Pinochet qui devrait sortir dans la bio-collection ou dans les cahiers d'histoire du nationalisme.
D'accord, oui, dans lesquels vous avez déjà publié. Quoi.
Alors, ça va probablement au printemps. Mm-hmm. Et j'ai d'autres projets, bien sûr, comme vous l'imaginez, sous le coude. Mais ça, nous en parlerons plus tard, et vous serez toujours destinataire, bien sûr, d'un exemplaire. Alors, s'agissant de l'avion, il n'y a plus grand-chose à dire. J'ai actualisé, parce que, évidemment, malheureusement, il y a eu d'autres drames. Et puis aussi, il y a des accidents d'avion, malheureusement, classiques. Et il y a de grandes personnalités qui sont mortes. Marcel Cerdan, par exemple. Il y a des personnalités importantes qui ont péri tragiquement dans des accidents d'avion classiques.
Voilà, oui, donc il y a d'autres...
J'aborde tout ça hein, dans ce bouquin-là. Il y a aussi des miraculés. Bon, on a parlé du roi Hassan II, mais il y a eu Yasser Arafat, il y a eu le roi de Jordanie, qui sont des miraculés, c'est-à-dire que leur avion a été attaqué ou il s'est écrasé, ils en sont sortis indemnes.
Bon. Là, il y a aussi des personnes qui ont été victimes d'attaques aériennes. Des bombardements, vous citez Mouammar Kadhafi.
Oui, avez Kadhafi, vous avez le président Lon Nol, vous avez François Duvalier.
Il y a Jacques Doriot aussi.
Est mort, si vous voulez, assassiné, entre guillemets, par un avion, puisque... Alors, on ne sait pas si c'est un avion allemand ou un avion allié. Ça, on ne le sait pas. Si quelqu'un peut me le dire, il est le bienvenu. Il a été mitraillé alors qu'il était... il quittait Sigmaringen, il était en Allemagne. Oui. Il allait vers le lac de Constance. Et alors, est-ce qu'il a été repéré? Est-ce que c'est le hasard? Ça, on ne le sait pas.
Ouais.
C'est comme le général Rommel.
Tout à fait. Ouais, qui a été aussi mitraillé avant que son suicide forcé.
Si vous voulez, mon bouquin, il est... entre guillemets, haletant, parce que c'est un petit peu un roman policier, sauf que c'est le lecteur qui choisira à la fin qui est l'assassin.
Voilà, donc il y a énormément de figures là que n'ont pas eu trop le temps d'aborder. Il y en a une que j'aurais souhaité, sur laquelle je résistais aussi, c'était Soubas, Chandra Bose, étant donné que c'est une figure qui revient à l'odeur de sainteté dans l'Inde de Narendra Modi.
Il était le dirigeant nationaliste aligné dans le camp de l'Axe contre les Britanniques. Bon voilà, et il a rallié à lui évidemment un certain nombre d'Indiens parce que
dans l'armée nationale indienne.
Bien sûr, l'armée nationale. Il y a une armée qui s'est battue avec les Japonais contre les Britanniques.
Voilà, parce que là aussi on jouait l'idée de la grande sphère de coprospérité que le Japon avait.
Et puis, avec la Birmanie notamment,
Voilà, il y avait une volonté d'émancipation de...
Oui, l'argument qu'avançaient les Japonais. Leur impérialisme a été habillé habilement avec cette idée de sphère de coprospérité, bien sûr.
Bon, donc lui aussi, il n'aurait pas dû prendre l'avion.
Dû prendre l'avion non plus, comme Lin Piao non plus, et comme beaucoup d'autres,
Voilà, on avait cité, au Portugal,
au Portugal, c'est difficile de dire que ce soit un attentat, c'était, je crois, Sá Carneiro, et c'est plutôt de la malchance, là.
En tout cas, je propose à mes auditeurs, à nos auditeurs, de se plonger dans votre ouvrage, et ils en découvriront bien plus, nous n'avons abordé que quelques figures qui sont concernées par un avion qu'elles devraient lui prendre. C'était Pascal Assal, aujourd'hui, à la direction de ce libre journal, qui vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures métapolitiques. Merci Jean-Claude.
Merci.
Et à très bientôt.
Vous venez d'entendre le libre journal de Pascal Lassalle, émission préenregistrée le 15 février 2026, diffusée sur Radio Courtoisie, samedi 21 février de midi à 13h30 et réalisée par Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016, Paris.